J'ai proposé que nous prions pour Monsieur Go, pour Jérôme. Nous allons le faire. Vous allez aussi prier pour moi pour que le Seigneur m'aide. J'avais très très peur que ma gorge ne tienne pas. Ça a l'air d'aller à peu près. Que le Seigneur m'aide. Soyons dans la communion les uns avec les autres. Seigneur Jésus, nous voulons te prier de répandre ta grâce parce que nous sommes bien conscients que sans ta grâce, rien ne peut se passer. Répands ta grâce sur cet auditoire ce matin. Peut-être y a-t-il quelqu'un qui a plus besoin de toi que d'autres. Et personne ne le sait, personne ne le voit, mais toi tu le sais. Je te prie, Seigneur, de m'aider, de m'inspirer. Je voudrais tellement que chacun soit remué, que chacun s'enracine et soit bouleversé par les vérités de ta parole. Donc, que ton esprit soit au milieu de nous. Nous prions pour notre frère, Monsieur Go, qui est à Sète. Nous te demandons de le remplir du Saint-Esprit, qu'il apporte le message avec la puissante onction que tu lui donnes. Nous demandons la même chose pour Jérôme à Mazamé. Bénis-le. Bénis-le, Seigneur, et que cet auditoire de Mazamé soit aussi remué par le message qui vient de Dieu. Et puis tu as entendu cette requête double. Bénis-les, Seigneur Jésus. Nous disons de tout notre cœur, amen. Que la grâce de Dieu soit sur elles. Nous les bénissons de la part de Jésus. Nous les bénissons maintenant. Que le mal soit chassé, que la puissance soit sur elles, que la grâce de Dieu les entoure. Et puis peut-être d'autres personnes au milieu de nous se disent « Ah, que je voudrais que l'on prie. » Eh bien, Seigneur, tu les connais, bénis ces personnes qui souffrent. Et que la grâce de Dieu soit sur chacun, sur les corps, mais aussi sur l'âme de chacun. Amen. Oui, amen. Que le Seigneur bénisse ceux pour qui nous venons de prier. Vous savez, mes frères et sœurs, la Bible est un livre extraordinaire. Je l'ai dit, je l'ai redit et je vais le redire parce que nous sommes entrés dans une époque où les gens vont se détourner de la parole de Dieu, tout en gardant en apparence un aspect religieux. La Bible est un livre extraordinaire par les paroles qui y sont prononcées, par les phrases que Dieu a dites, par des vérités qui sont toujours d'actualité. Elles étaient vraies il y a des milliers d'années, elles sont vraies encore aujourd'hui. La Bible est un livre extraordinaire, parce que ce sont les vérités dont nous avons besoin. Une personne qui n'a jamais lu la Bible et qui l'apprend, qui l'ouvre, trouve les vérités dont elle a besoin aujourd'hui, dans ce moment même. Pour son corps, pour son âme, pour sa famille, pour son devenir, pour son avenir. Il y a des vérités tout à fait précises et d'actualité dans la parole de Dieu. Et que dire lorsqu'il s'agit de vérités prophétiques? Parce que la Bible est un livre qui ne ressemble à aucun autre à cause des milliers de prophéties précises que Dieu a écrites dans la Bible. L'un des tests les plus exigeants auxquels on pourrait soumettre une religion quelconque, c'est de juger de sa capacité à prédire des choses qui s'accomplissent de la part de Dieu. La Bible est un livre rempli de vérités qui s'accomplissent. Quelquefois, elles ont été prononcées par des gens qui n'ont même pas compris ce qu'ils disaient, tant c'était extraordinaire. Mais Dieu, lui, veille à ce que la Bible soit reconnue comme un livre extraordinaire. Écoutez par exemple ce passage qui n'est pas le fondement de mon message, mais qui me servira d'introduction. Ce passage que vous trouverez plus tard dans Ésaïe 41, où Dieu dit « Plaidez votre cause, produisez vos moyens de défense ». Qu'ils les produisent et qu'ils nous déclarent ce qui doit arriver. Quelles sont les prédictions que vous, jadis, vous avez faites? Dites-le pour que nous y prenions garde et que nous en reconnaissions l'accomplissement. Ou bien annoncez-nous l'avenir. Dites-nous ce qui arrivera plus tard, pour que nous sachions si vous êtes des dieux. Faites seulement quelque chose de bien ou de mal, pour que nous le voyions et que nous le regardions ensemble. Dieu tient à ce que l'on sache que lui, ce qu'il dit, il l'accomplit. Et non seulement ce qu'il dit, il l'accomplit, mais la Bible est toute remplie de prophéties extraordinaires. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a des prophètes qui n'ont peut-être pas du tout compris ce qu'ils disaient. Par exemple, le prophète Osée, qui a vécu sept siècles et demi avant la venue de Jésus-Christ, lorsqu'il a dit, un jour il a écrit comme cela, sous l'inspiration, « Même les poissons de la mer disparaîtront », a-t-il compris ce que ça pouvait signifier. Et pourtant, vous savez qu'aujourd'hui, on est en train de s'inquiéter beaucoup. Lui, il a écrit il y a sept siècles et demi avant la venue de Jésus-Christ. Ou bien le petit, je dis petit parce que c'est le plus petit prophète de la Bible, le prophète Abdias, lorsqu'il a écrit « Quand bien même tu placerais ton nid dans les étoiles, je t'en précipiterai ». Ben, je ne sais pas si Abdias a pensé aux vérités qu'il écrivait, mais ça c'était Abdias, c'était 8 siècles et demi avant la venue de Jésus. À cette époque-là, on ne parlait pas beaucoup de la conquête des étoiles. Bien sûr que non, vous le savez. Lui, il a écrit cela. Compris, pas compris. A-t-il su ce qu'il était en train de dire? C'était des phrases qui les dépassaient. Mais Dieu ne dit jamais, jamais n'importe quoi. Je voudrais, mes frères et sœurs, que nous soyons entièrement saisis par la parole de Dieu, bouleversé par les vérités de la parole de Dieu. Et je voudrais que ce matin, la Bible, dans ses précisions, vous atteigne et que vous disiez, mais je ne la lirai plus jamais comme je l'ai lue, je m'y attacherai, je m'en vais la regarder avec amour, avec passion, avec respect, avec adoration, parce que ce que Dieu dit est la vérité. Je vous entraînerai sur 3 passages qui, a priori, n'ont pas beaucoup de rapport entre eux. Tout ce que j'espère, c'est que le Seigneur va m'aider à vous démontrer, à vous montrer les rapports qu'il y a entre ces 3 passages, et que vous voyez qu'ils ont un rapport entre eux et une suite. Ce sont des vérités prophétiques, des vérités que Dieu a données, des vérités dont nous avons encore besoin. Que le Seigneur fasse qu'elles rentrent dans vos cœurs, mes frères et sœurs. Et si quelqu'un vient pour la première fois, que le Seigneur fasse que ces vérités vous soient précises et vous apparaissent tellement fortes et puissantes qu'elles attireront vos cœurs à Jésus-Christ. La première, nous allons la trouver dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er. Et au verset 29. Le lendemain, Jean-Baptiste vit Jésus venant à lui et dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Verset 35. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples et ayant regardé Jésus qui passait, il dit « Voilà l'agneau de Dieu. » Cette phrase était prononcée probablement avec une telle conviction, avec une telle onction et une telle réalité que les hommes qui étaient avec Jean-Baptiste l'ont quitté et ont suivi Jésus qui passait. Tellement ça les avait étonnés et bouleversés. Cette première phrase que je veux vous laisser, c'est « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » À cette époque, lorsqu'un homme avait péché, lorsqu'une famille avait péché et voulait que son péché soit pardonné, Dieu avait laissé des lois précises. Ils devaient aller acheter ou prendre dans leur troupeau un agneau, le plus beau qu'ils trouvaient, le plus saint, le plus joli Prenez pas celui qui était estropié, qui boitait ou qui était malade. Ça, c'était un grave péché, c'était interdit. Il prenait l'agneau le plus joli qu'il trouvait, le plus cher peut-être, et il venait l'offrir pour que leur péché soit pardonné. Quelqu'un va dire, mais c'est étrange ça. Ici, vous entendez souvent parler de Jésus comme l'agneau de Dieu. Oui, agneau de Dieu, parce qu'il a été choisi par Dieu, c'est le cadeau de Dieu, c'est le choix de Dieu, pour qu'il soit immolé à notre place, pour qu'il paye à notre place. Jésus, l'agneau de Dieu, non pas n'importe quel agneau. J'ai dit qu'il fallait prendre le plus cher, le plus joli, celui qui avait le meilleur aspect. Et Dieu a choisi son propre fils. Il ne pouvait pas trouver mieux que cela. Jésus, le créateur des cieux et de la terre, celui qui a tout créé, celui qui a tout fait, Dieu a choisi ce Jésus, ce Seigneur, pour pouvoir l'offrir, pour racheter nos péchés. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et pour être pardonné, il n'y a pas un autre moyen. Pour être lavé, pour être débarrassé de son passé, pour que Dieu réponde à notre supplication de pardon, il n'y a qu'un moyen, c'est venir vers Jésus comme l'agneau de Dieu. On n'est pas gracié parce qu'on est mieux que les autres. Vous ne serez pas gracié parce que vous avez une religion que Dieu estime un peu mieux que les autres. Dieu ne considère pas nos religions. Vous ne serez pas gracié par Dieu parce que vous avez de l'argent et que Dieu est tout abasourdi par votre compte chèque. Vous ne serez pas gracié parce que vous avez des connaissances, que vous êtes intellectuel ou alors vice-versa, parce que vous êtes extrêmement simple et que vous lui faites des prières toutes simples. On est gracié parce qu'il y a entre Dieu et nous quelqu'un qui a donné sa vie pour racheter nos péchés. Gracié par le sang de Jésus-Christ. Malheureusement, nous sommes entrés dans une phase, c'est prophétique cela aussi, l'Église dans les derniers temps aura comme gros défaut celui de garder les apparences de la piété, mais de se détourner de Jésus-Christ. On se demande comment cela est possible, mais c'est pourtant écrit. C'est l'esprit de l'Antichrist qui permettra cela. L'Église aura des symboles religieux, des apparences religieuses, elle aura des prières religieuses, elle aura des mouvements religieux, mais il manquera au milieu d'elle l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et je souhaite vous mettre en garde, frères et sœurs, contre cette destinée de la mauvaise Église, contre cette voie que la mauvaise Église doit suivre. Nous avons besoin de la présence de Dieu, pas d'autre chose. Nous avons besoin de Jésus-Christ, pas d'autre chose. Dieu ne regarde pas nos symboles religieux. Il y a des gens qui estiment qu'ils sont en communion avec Dieu parce qu'ils portent une croix, parce qu'ils ont une Bible sous le bras. Ce sont des symboles religieux. Nous sommes sauvés parce que nous avons l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je vous propose une lecture qui illustre ce que je viens de vous dire dans 1 Samuel, au chapitre 4. Et on fera la lecture, elle fait plusieurs versets. À partir du verset 1er, 1 Samuel 4, 1. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près d'Ébenézer, et les Philistins étaient campés à Aphek. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël, et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins, qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Le peuple rentra au camp, et les anciens d'Israël dirent. Ils ont posé une bonne question. Malheureusement, ils n'ont pas cherché la réponse qui n'est venue que 20 ans plus tard. Ils dirent, « Pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins ?» Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. » Le peuple envoya à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées qui siègent entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là avec l'arche de l'alliance de Dieu. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie et la terre en fut ébranlée. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins et ils dirent « Que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux ?» Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. « Malheur à nous, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants ? Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Fortifiez-vous et soyez des hommes, Philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. » Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente, la défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. Voilà des hommes qui ressemblent à la future église des temps de la fin, la mauvaise église des temps de la fin. Ils ont confondu la présence de Dieu avec les symboles. Ils ont cru que parce qu'ils allaient chercher l'arche de l'Alliance, tout allait s'arranger. Ils ont poussé des cris, ils ont applaudi, ils ont chanté avec une ferveur extraordinaire. Ils y ont mis un engouement, ils étaient dans la joie. Certains ont même dansé, tout était parfait. Sauf que Dieu n'était pas là. Vous avez lu l'histoire. Dieu n'était pas là. Ils avaient posé une question. Pourquoi avons-nous subi cette défaite? Ils n'ont pas cherché la réponse. La réponse, comme j'ai commencé à le dire, je vais vous la montrer. Vous tournez une page et vous venez au chapitre 7 de 1 Samuel, verset 2. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjath-Jéarim. 20 années s'étaient écoulées. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Et Samuel dit à toute la maison d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés, dirigez vos cœurs vers l'Éternel et servez-le, lui seul. » Et il vous délivrera de la main des Philistins. Ça, c'est la réponse à la question posée 20 ans plus tôt. Et c'était la véritable et unique réponse et solution dont ils avaient besoin. Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Mes frères et sœurs, « voici l'agneau de Dieu. C'était vrai quand Jean-Baptiste était sur la terre. C'était vrai quand vous vous êtes convertis. Ce sera vrai dans les années à venir, ces années modernes que nous allons vivre et que nous vivons, ces années où les hommes sont de plus en plus incrédules, athées. Tout est résolu. Lorsqu'un homme dit, vous savez moi, je suis athée. Tout est résolu, sauf ses problèmes avec Dieu. » Au cas où quelqu'un écouterait cette cassette en étant athée, je ne pense pas qu'il y en ait au milieu de nous, mais au cas où quelqu'un écouterait, je voudrais dire qu'il y a 3 catégories d'athées. Je n'en connais pas une 4e. Il y a 3 catégories d'athées. Il y a la première catégorie, c'est l'homme qui est athée après avoir sincèrement chercher Dieu de tout son cœur. Il a lu la Bible, il a interrogé la Bible, il a cherché Dieu, il a interrogé Dieu, il a prié, il a reprié. Dieu ne lui a jamais répondu. Vous croyez que ça existe, ça? Si quelqu'un interroge Dieu, Dieu lui répond. Mais il a interrogé, il a cherché. Dieu n'a jamais répondu à ses prières. Ses recherches sont demeurées stériles. Alors il dit, je suis athée. Je ne connais pas beaucoup de gens dans cette première catégorie. La deuxième catégorie, c'est ce que quelqu'un a appelé les athées perroquets. Pardon pour le mot. Ce sont ceux qui disent, moi je suis athée, parce qu'ils l'ont entendu dire par d'autres. C'est une coutume. Et d'autres le diront parce qu'eux-mêmes le disent. Leurs enfants, leurs amis, leurs descendants, leurs parents, leurs voisins diront eux aussi, moi je suis athée, parce qu'ils l'ont entendu dire. Ça ne correspond absolument pas à une conviction, ni à un échec dans une recherche sérieuse. Pour dire je suis athée, il faudrait se livrer à une recherche sérieuse. Mais simplement, d'autres l'ont dit, je le dis aussi, je suis athée. Puis il y a une troisième catégorie d'athées qui représente la majorité. Ce sont ceux qui se disent athées uniquement pour calmer et faire taire leur conscience. Il n'y a plus d'interrogation entre Dieu et eux. Il n'y a plus de problème, pense-t-il, entre Dieu et eux. Dès l'instant qu'ils disent « je suis athée », leur conscience n'a plus besoin de s'émouvoir, de s'inquiéter ou de s'interroger. Pas la peine de réfléchir sur les choses à venir, sur les vérités de la Bible. Pas la peine de réfléchir sur l'au-delà, sur le jugement éternel, s'il y en a, s'il n'y en a pas, sur le prix du péché, s'il est grave, s'il n'est pas grave. Tout est réglé. Je suis athée. Uniquement pour faire taire ma conscience. Mais leur conscience ne se taira que très momentanément. On va le voir un peu plus loin. Donc, dans les temps de la fin, lorsque l'Église se détériore, lorsque l'Église se mondanise, elle risque d'abandonner les vérités. Et vous verrez de plus en plus, mes frères et sœurs, des hommes qui vous parleront d'athéisme, qui vous diront « moi je suis religieux, je suis croyant », mais qui n'auront aucune différence avec les gens du monde. Nous devons garder cette vérité. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Rien d'autre n'enlève le péché d'un homme que le Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes d'accord avec moi? Rien d'autre. Rien d'autre. Le deuxième passage que je veux vous lire, vous allez le trouver dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3 et au verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Puisses-tu être froid ou bouillant? C'est un peu comme si Dieu disait que l'athée est moins responsable que le chrétien qui s'est détourné de Dieu. Parce que le chrétien qui s'est détourné de Dieu est dans une telle illusion que plus rien ne touche son cœur. Vous allez voir l'illusion. Tu es tiède. Tu n'es ni froid ni bouillant et je te vomirai de ma bouche. Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. C'est une très grande illusion. Tu es misérable, malheureux, pauvre, aveugle et nu, et tu dis, j'ai besoin de rien. Je suis riche. Alors, difficile pour Dieu d'atteindre ces gens-là. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et puis un collier pour oindre tes yeux afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime, et donc du zèle et repens-toi. Et voici le verset prophétique et magnifique que Jésus exprime ici, puisque c'est Jésus qui parle. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Ça, c'est un beau verset, frères et sœurs. C'est un beau verset. Peut-être vous pensez, ben oui, ça veut dire que si quelqu'un entend et reçoit le Seigneur Jésus, il y aura une communion, car le souper, c'est un symbole de paix, de détente, de communion. Donc il y aura une communion réciproque, moi avec lui, lui avec moi. Moi, j'ai une autre explication et je préfère la mienne. Je crois que Jésus dit ceci: si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et après, il rentrera chez moi. J'entrerai chez lui et je souperai avec lui et plus tard, il rentrera chez moi et il soupera avec moi. Si quelqu'un m'ouvre la porte, je serai dans sa vie. Mais plus tard, il sera dans la mienne, chez moi. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, si quelqu'un croit que je suis l'agneau de Dieu et me veut, je serai avec lui dans les temps présents, dans le siècle qu'il vit, dans les années qu'il vit, dans ses maladies, dans ses difficultés, dans ses épreuves, dans son désert, dans ses tempêtes, je serai avec lui. Mais je vous le dis, je l'invite chez moi, à mon souper. Vous comprenez, frères et sœurs? Du reste de la Sainte Cène que nous prenons, je ne sais même pas s'il n'y a pas une version, je crois qu'il y a une version, qui dit qu'il nous, il prendra la cène avec moi. Au lieu de souper, il y a le mot cène. Quand nous prenons la Sainte Cène, nous évoquons le souper que le Seigneur donnait à ses disciples et le souper qu'il a promis de donner à ses enfants. Est-ce qu'il n'a pas promis de donner un souper à ses enfants? Est-ce qu'il n'a pas dit qu'il prenait le pain et le vin pour la dernière fois, mais que la prochaine fois, il le reprendrait avec ses enfants dans le ciel? Vous me suivez, frères et sœurs? C'est une promesse faite par le Seigneur Jésus. Il y a donc dans ce verset 20 deux extraordinaires promesses. La première: si quelqu'un entend ma voix, je viendrai dans sa vie. Je serai présent dans sa vie. Ah, s'il y a quelque chose dont l'Église a besoin, c'est de la présence du Seigneur Jésus. S'il y a quelque chose auquel vous avez droit, parce que le Seigneur en a fait la promesse, c'est la promesse de la présence de Jésus. Non pas des rites, non pas des habitudes, comme craignait notre frère tout à l'heure en présentant la Sainte Cène. Ce dont nous avons besoin, c'est de la vérité, de la présence de Dieu. Tous les jours dans notre vie, nous pouvons sentir, oh, nous ne le voyons pas. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et quelquefois, malgré tout cela, les chrétiens se sentent si seuls. Ils ne savent pas s'ils sont dans la vérité. Ils ont l'impression qu'ils tombent dans un trou, que tout leur échappe, que tout est abandonné autour d'eux. Ce n'est pas vrai cela, frères et sœurs. Et pourtant, le Seigneur a dit, je serai avec vous. Et pourtant, il est écrit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui nous séparera de ce Christ? Les puissances, les amis, la profondeur, la hauteur, le monde présent, le monde à venir, qui nous séparera? Rien. Rien ne peut séparer un chrétien de l'amour de Jésus-Christ dès lors qu'il a entendu la voix de Jésus et qu'il a ouvert sa porte. C'est-à-dire qu'il a dit « Oui, je reconnais que ce que Dieu dit est vrai et je le veux pour moi. Je le souhaite pour moi. Je prends le temps de le comprendre. Je prends le temps de me placer devant Dieu. Je prends le temps de lire les paroles de Dieu. J'en veux. Je veux de la présence de Dieu. » Et il nous fait ici cette promesse. Si quelqu'un entend ma voix, je souperai avec lui. Vous avez reconnu que ce verset, il est tout à fait au singulier, Il n'y a pas de pluriel dans ce verset. C'est quelqu'un et avec lui. Ce qui est vrai pour l'un n'est peut-être pas vrai pour le conjoint, n'est peut-être pas vrai pour les parents, n'est peut-être pas vrai pour les enfants. Chacun a son propre problème devant Dieu. Chacun doit entendre la voix de Dieu. Nous souhaitons que nos familles entendent la voix de Dieu, mais nous ne pouvons pas les obliger à accepter ce sauveur qu'ils ne veulent pas. Nous ne pouvons pas les contraindre, et Dieu ne contraint personne. Il frappe simplement, et il attend que nous lui ouvrions. Et de la même manière que nous ne pouvons pas les convaincre, ils ne peuvent pas non plus nous séparer de l'amour de Dieu. Ils ne peuvent pas nous interdire et nous empêcher de connaître la présence de Dieu. Mes frères et sœurs, plus vous allez avancer dans cette vie difficile qui est devant nous, plus vous allez avancer, plus vous avez besoin de la présence de Dieu. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Le Seigneur veut être avec chacun d'entre nous. Est-ce que c'est une vérité que vous acceptez celle-là? Est-ce que c'est une vérité qui vient sur votre cœur? Est-ce que c'est une vérité qui vous bouleverse? Nous ne voulons pas être des gens religieux comme ceux qui étaient déçus d'avoir été vaincus par l'ennemi que je vous ai lu tout à l'heure, et puis qui criaient, qui faisaient du bruit, qui dansaient parce qu'il y avait un symbole religieux au milieu de nous, au milieu d'eux. Nous voulons la présence de Dieu dans notre vie. Et Dieu vous le propose. Entendre la voix du Seigneur, lire la Bible et dire « Oui Seigneur, tu as raison. Je fais ce que tu as dit. Je me repens de mes péchés. Je recherche la sanctification. Je veux être droit dans ce que tu me demandes, dans ce que tu me proposes. » Celui qui ouvre la porte a droit à la visite du Sauveur. Et toute votre vie, le Sauveur sera là. Il ne dépendra pas des autres, il ne dépendra pas de l'Église, il ne dépendra pas des circonstances, il dépendra uniquement de votre communion avec lui. La deuxième promesse, c'est « Une fois qu'il m'aura reçu chez lui, moi, je le recevrai chez moi. Je souperai avec lui et après il soupera avec moi. » Il y a la promesse d'être reçu. Car le Seigneur Jésus revient. Il ne faut pas oublier cette vérité. Il faut aussi la prêcher. Le Seigneur revient. C'est écrit combien de fois dans le Nouveau Testament. Même quand nous prenons la Sainte Cène, il y a un verset étrange qui dit « Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. » Donc nous croyons qu'il est mort, mais nous croyons qu'il est ressuscité. Et qu'il revient. Le Seigneur revient. Et les chrétiens savent que le retour de Jésus n'est pas si loin que cela. Les choses se mettent en place, comme la Bible l'a dit. Et les chrétiens savent que le Seigneur reviendra sans préavis. Et vous vous coucherez le soir ou nous lèverons le matin. Rien ne nous indiquera que c'est le dernier jour ou la dernière nuit. Et subitement, en un clin d'œil, vous connaissez ces textes. En un clin d'œil, une trompette sonnera dans le ciel, que personne n'entendra sans doute, sauf ceux qui vivront avec le Seigneur, et une transformation complète. En quelques milliers de secondes, les chrétiens se retrouveront emportés avec le Seigneur. Il revient, et Jésus a fait cette promesse. Puisque tu me reçois chez toi, puisque tu m'ouvres la porte, je te recevrai chez moi et je souperai avec toi. Est-ce que vous êtes prêts pour le retour du Seigneur Jésus? Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui doit nous stimuler, frères et sœurs? Est-ce que ce n'est pas une vérité qui doit nous tenir debout? Est-ce qu'il n'est pas écrit dans la Bible à plusieurs endroits? Par exemple, dans Colossiens 1, 23, « Ne vous détournez pas de l'espérance de l'Évangile. » Si l'apôtre Paul a dit cela, c'est parce qu'il y a des gens qui se sont détournés. Ils avaient l'espérance dans leur cœur et puis petit à petit se sont détournés. Dans Hébreux 3, verset 6, « Retenons jusqu'à la fin notre ferme espérance. » Ou bien dans Hébreux 6, 11, « Conservez jusqu'à la fin une pleine espérance. » Frères et sœurs, accrochons-nous à cette espérance. Le Seigneur revient. Jésus a promis, il dit, que votre cœur ne se trouble point. croyez en Dieu, croyez en moi, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Ben, c'est ce qui est écrit ici, dans Apocalypse 4, verset 20. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui. Et après, il rentrera chez moi. Que le Seigneur fasse que son Église soit prête. Que Dieu bénisse les chrétiens qui se préparent. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Que Dieu bénisse les chrétiens qui croient que Jésus revient. Ne nous laissons pas détourner par quoi que ce soit. Vous connaissez la parabole, cette parabole, vous la trouverez dans Luc 14, d'un homme qui donna un grand souper et qui envoya à tous ses amis une carte d'invitation en disant « Venez, car tout est prêt ». Et puis, personne n'est venu. Et quand il s'est inquiété de ce que personne ne venait, il a découvert que l'un d'entre eux disait « Je ne peux pas venir, je viens d'acheter un champ ». « Faut bien que j'aille le mesurer, le voir, le sonder. » L'autre disait, « Je ne peux pas venir, j'ai acheté du bétail, des bœufs, et il faut que je les essaye, que je vois ce qu'ils valent, que je les dresse. » Puis un autre disait, « Mais je ne peux pas venir, je suis tout nouveau marié, j'en ai même pas parlé à ma femme, on n'a pas le temps. » Et vous savez comment termine la parabole ? Jésus dit, « Je vous le dis, aucun de ceux qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. » C'est écrit cela au verset 24 du chapitre 14 de Luc. Aucun de ceux qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Que le Seigneur fasse que nous considérions l'invitation du Seigneur Jésus, car il nous invite dans sa maison, et qu'il fasse que nous soyons prêts quand il reviendra. Le dernier verset qui a un rapport avec les deux précédents que je voudrais vous lire, c'est dans Apocalypse chapitre 6. Nous allons lire à partir du verset 12. Faites bien attention, il y a des mots étonnants. « Je regardai quand il ouvrit le sixième sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles tombèrent du ciel sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre » Il y a toutes les couches sociales là. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes, et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu. » Et qui peut subsister. Mes frères et sœurs, quand j'ai dit restons fidèles, il y a une grande raison pour rester fidèles. Mes frères et sœurs, quand je dis voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, l'agneau de Dieu, c'est ce Christ qui n'a jamais regimbé, qui n'a jamais discuté et qui s'est laissé crucifier jusqu'au bout. Quand j'ai dit voilà l'agneau de Dieu, je pensais que j'allais vous dire ici le grand jour de la colère de l'agneau. C'est pas étonnant cela ? Cet agneau que les gens n'ont pas voulu, ils le retrouvent en colère. Cette face qu'ils n'ont pas voulu, cette présence qu'ils n'ont pas voulu. Car j'ai dit que Dieu nous proposait sa présence. Dieu veut être présent dans vos cœurs, dans vos âmes, dans vos prières, dans vos familles. Cette présence de Dieu que les hommes n'ont pas voulu, ils la fuient et ils disent « Cachez-nous dans la présence de Dieu ». Car lorsque la colère de Dieu se déchaînera contre l'impiété, contre les hommes, contre l'impiété, c'est écrit dans Romains chapitre 1, que Dieu déchaîne sa colère contre toute impiété qui retienne injustement la vérité de Dieu captive. Lorsque la colère de Dieu se déchaînera contre cette impiété, les hommes seront saisis, ils comprendront tout, mais la porte sera fermée. Et cet agneau qui ôtait les péchés du monde et qu'ils n'ont pas voulu, qu'ils ont discuté, auquel ils ont tourné le dos et qu'ils ont méprisé, nous l'avons méprisé, nous l'avons fait de lui aucun cas, il le retrouve dans l'éternité, saisi d'une immense colère. Cachez-nous de la colère de l'agneau. Je voudrais, si vous êtes nouveau, si vous ne connaissez pas le Seigneur, si c'est une des premières fois que vous entendez l'Évangile, donnez votre cœur à Jésus-Christ, afin que vous ne fassiez pas partie de cette foule qui est saisie par le jugement de Dieu. Puis vous savez, le détail est clair. Il nous est dit, les rois, les grands, les chefs militaires, là, ils sont tous au même niveau. Quel que soit le compte en banque de l'un ou l'autre, quels que soient les rapports sociaux des uns avec les autres, quelle que soit la nature des uns ou des autres, qu'ils soient chefs, qu'ils soient rois, qu'ils soient présidents, qu'ils soient ministres, qu'ils soient SDF, ils sont tous au même niveau, ils ont peur de la présence de Dieu et ils n'en veulent pas. Eh bien, que le Seigneur fasse que cette prophétie ne s'accomplisse pas pour nous. Que le Seigneur fasse que cette prophétie ne s'accomplisse pas pour vous. Et prions pour nos amis, prions pour nos familles, afin qu'ils viennent à Jésus-Christ, qu'ils reçoivent l'agneau de Dieu. Restons fidèles à l'agneau de Dieu. Voici, il ôte le péché du monde. Il est toujours le même. Et rien ni personne ne variera ou ne fera varier Dieu dans ce qu'il a décidé. L'Évangile aujourd'hui est en train imperceptiblement de se modifier. On n'ose plus prêcher le sacrifice, la croix, la repentance. Il y a des mots qui ont été bannis du vocabulaire des prédicateurs. Eh bien, résistons à cela, frères et sœurs. Voici l'agneau de Dieu, c'est toujours la même chose. Et celui qui n'accepte pas l'agneau de Dieu le retrouvera dans l'éternité, mais d'une autre manière. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il nous donne d'être attentifs, qu'il nous donne de croire à la Bible, qu'il nous donne de lire la Bible avec des sentiments toujours renouvelés, qu'il nous donne de faire attention aux prophéties, qu'il nous donne d'être bouleversés quand nous lisons ces phrases. Et s'il y a une prophétie que nous ne comprenons pas, acceptons qu'un jour peut-être nous la comprendrons. Tout n'est pas clair aujourd'hui, tout n'est pas révélé aujourd'hui, mais tout est vrai quand même aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Seigneur Jésus, merci parce que tu es l'agneau de Dieu. Et si je suis sauvé, si mes frères et sœurs sont sauvés, si nous pouvons chanter ces cantiques, c'est parce qu'il y a eu ce sacrifice à Golgotha. L'agneau de Dieu. Tu es cet agneau que Dieu a choisi, ce substitut que Dieu a choisi. Tu es ce sacrifice que Dieu a choisi pour racheter nos péchés. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Et puis nous te supplions de nous garder fidèles à cette vérité. Nous ne voulons pas succomber aux tentations du monde qui s'éloignent des vérités. Nous ne voulons pas écouter les sirènes du monde qui veulent nous faire croire un autre évangile, d'autres vérités que la vérité réelle qui est écrite dans ta parole. Seigneur, je te prie pour cette église. Je te prie pour les églises de France. Je te prie pour toutes les églises qui te sont fidèles. Garde-les, garde tes enfants, garde les églises, garde tes serviteurs, afin que la prédication soit toujours vraie, soit toujours la même. Bénis, Seigneur, bénis tes enfants. Peut-être que quelqu'un ce matin a entendu et avec étonnement cette vérité. Peut-être quelqu'un a-t-il entendu pour une des premières fois ou n'avait-il pas compris les choses de cette manière. Seigneur, montre-lui que tu es l'agneau de Dieu. et que c'est le moment pour lui d'ouvrir la porte, et que s'il te reçoit chez lui aujourd'hui, toi tu le recevras chez toi plus tard. Si quelqu'un te reçoit aujourd'hui dans une communion sincère, toi tu le recevras en pleine communion dans l'éternité. Si quelqu'un te reçoit aujourd'hui parce qu'il a besoin de ta présence, toi tu le recevras et tu lui dis « Venez ». Tu lui diras « Venez et entrez ». Oui, Seigneur, tu nous juges et tu nous traites comme nous t'avons jugé, comme nous t'avons traité. Alors, s'il te plaît, ouvre les cœurs ce matin et que chacun comprenne ce que tu veux pour lui. Que ta grâce se répande sur toute cette ville. Nous te prions pour ceux qui ont refermé la porte après des années. Nous te prions pour eux afin que leurs yeux s'ouvrent et qu'ils aient envie de rouvrir cette porte. Nous te demandons, Seigneur, que tu les presses, tu ne les obligeras pas, je le sais, mais que tu les presses et que tu les convainques à ouvrir la porte tant qu'il est encore temps, afin que toi tu puisses plus tard ouvrir la tienne. Seigneur, merci pour toutes choses, merci pour ta grâce. Bénis toutes choses dans cette journée, bénis tes enfants et remplis-les de la paix et du pardon. Amen.